Bonjour et bienvenue, c'est l'épisode 42 de ITcast du 17 mars 2017. Maxime est de retour cette semaine et aujourd'hui notre invité est Sefala Tagrerout qui nous parle depuis Aix-en-Provence. Sefala et Maxime nous parlent aujourd'hui de Advanced Threat Analytics ou ATA, produit qui permet de détecter des attaques sur Active Directory. Sefala nous fait part de son expérience sur le produit qu'il a mis en place récemment chez un client grand compte. Quant à moi, c'est la nouvelle version de la ligne de commande Azure Cross-Platform, Azure CLI 2.0, qui m'a inspiré cette semaine. Et je vous expliquerai pourquoi il vous le faut absolument pour tous vos besoins de scripting Azure. Bonne écoute et bon week-end. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode. Maxime, bonjour.
Bonjour à tous.
Tu vas bien, Maxime? Depuis...
Bah écoute, super, depuis la dernière fois, oui.
Oui, voilà, depuis deux épisodes.
C'est ça, oui, j'ai pas pu vous accompagner sur le dernier, mais bon, je suis de retour, je suis bien là, donc tout va bien.
Et aujourd'hui, on reçoit Sefala Tagrerout. Salut Sefala.
Bonsoir à tous, ouais. Salut Pascal.
Donc tu es toujours consultant infrastructure et cloud chez Capgemini Sogeti et MVP Cloud and Data Center Management.
C'est ça, tout à fait. Et je suis ici pour vous parler de sécurité.
Avant de parler de ton sujet sécurité, Sefala, on va parler avec Maxime d'une tranche d'actualité. Ensuite, on parlera avec toi, Sefala, de sécurité, et notamment d'un produit particulier qui est, tiens, je te laisse le dire.
Oui, alors donc, ça va être Microsoft ATA, donc Advanced Threat Analytics, un produit qui va vous permettre de sécuriser votre système d'information au niveau donc, des alertes, des notifications, etc.
Et ensuite, après avoir épuisé le sujet ATA de ton retour d'expérience, plus d'un produit connexe qui nous sera expliqué par Maxime, hein, je ne me trompe pas, Maxime ?
Moi, j'ai prévu plusieurs petites news dans la communauté
ouais, on va commencer par
de manière générale, orientée, on va dire, device mobilité et un petit peu d'identité aussi.
Ok, et on terminera, je terminerai par une petite... par un petit sujet rapide sur Azure CLI V2, Azure CLI V2, parce que j'aime bien la ligne de commande. Donc, Maxime.
C'est la base, hein, la ligne de commande.
Exactement.
C'est la base, effectivement.
Et puis, on ne se refait pas. Hein, j'ai fait une présentation cette semaine sur ce sujet-là, donc j'en profite pour en faire partager, pour vous faire partager ce petit sujet. Donc, Maxime. Quelques actualités de la communauté et des sujets autour de l'identité, c'est ça que tu disais ?
Oui, alors surtout pour l'instant, la partie communautaire, et donc Sefala pourra nous en parler plus en détail, c'est en fin du mois, donc le 30 mars, on a un événement organisé par les communautés AOS et CMD, Cloud Mobility and Data Center, donc qui se déroulera au soleil. Aix-en-Provence, donc c'est top, ça fait plaisir de descendre. Donc Pascal, tu seras aussi présent, je serai présent, Sefala ouais. sera présent. Donc voilà, c'est un événement sur une journée organisé par AOS et CMD sur les sujets justement des différentes communautés, la mobilité, data center, Azure, Office 365, SharePoint, voilà, que du beau monde.
Ouais, je serai pas
peut-être
seul.
Peut-être nous en
je
dire un petit peu plus, Sefala.
Ouais, pardon.
Oui, bien sûr. Donc, ça va être un événement, donc, comme tu le disais, Maxime, qui va être en fait co-organisé donc, pour la première fois par la CMD Community et AOS. Donc, AOS, je rappelle, c'est Azure, Office 365 et SharePoint. Donc, nous aurons le plaisir, effectivement, dans cet event, en fait, d'avoir donc, une keynote avec Pascal et Stanislas donc, sur la partie Azure. Donc ça déjà ça va faire ramener beaucoup de monde et puis dans cette journée nous allons avoir en fait deux tracks, une track on va dire orientée métier et une track orientée technique et en fait je vous encourage à venir parce qu'en fait on va avoir vraiment des retours d'expérience sur des choses, sur des sujets un peu chauds, notamment tout ce qui est DevOps avec Jean-François, tout ce qui est OMS avec Rémi Bovy, tout ce qui est gestion d'identité justement avec toi Maxime et Nicolas Bonnet, etc. Donc ça va être vraiment une superbe journée qu'il ne faudra pas rater.
Où est-ce qu'on peut se renseigner sur l'événement, Sefala ?
Alors, pour ça, c'est simple. Il suffit de se rendre en fait sur le site de la communauté. Donc, c'est cmd.community. Et en fait, bah, là, vous allez avoir directement l'événement dans l'agenda. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, donc CMD Community, sur mon propre Twitter, celui de Maxime aussi, parce qu'il partage, je vois qu'il partage régulièrement aussi. Donc voilà, pour vous inscrire, c'est simple, c'est gratuit. Donc, c'est un Eventbrite, vous vous inscrivez. De toute façon, on donnera le lien dans ce podcast, Pascal, à la fin, afin que les gens puissent peut-être donc se repointer dessus s'ils veulent s'inscrire.
C'est ça, il y a aussi un lien qui pointe vers Eventbrite sur le meet-up de CMD, donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur le meet-up. Il y a un groupe dédié.
Ok, et donc c'est à Aix. Toi qui es déjà à Aix, Céphala, et qui y vis, il fait bon en ce moment ? On aura de la chance, tu crois, le 30 mars ou...
Je pense, j'espère que vous n'allez pas nous ramener de la pluie, mais je pense qu'il fera très beau, parce que là, comme aujourd'hui par exemple, il a fait très très beau. Il commence même à faire un peu chaud, donc je pense que ça va le faire pour cette belle petite journée.
Cool.
Attends, on a eu 23 degrés, c'est un super beau temps aujourd'hui à Paris. Hein.
Franchement, ouais, enfin, une fois tous les 6 mois.
C'est ça, et puis ce week-end, ça va être pourri. Donc... voilà, et alors c'est au CESI, au centre de formation CESI. Hein.
C'est ça, tout à fait. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Et puis on aura justement l'occasion de profiter, toi Pascal qui adore Aix et surtout le cours Mirabeau, on aura le plaisir d'aller tous boire un verre là-bas tous ensemble, ça va être sympa.
Ça marche, pour le 30 mars à Aix.
Ça, 30 mars à Aix. Ouais.
Autre chose Maxime ?
Bah écoute, je pense que je reviendrai après sur les news de la communauté et aussi des produits Microsoft. Voilà, pour moi c'est à peu près tout.
Ok. Céphala, donc tu vas nous parler de ATA, Advanced Threat Analytics, un produit de sécurité de Microsoft que tu as mis en œuvre chez un client récemment. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer en gros en quoi consiste la solution ATA et comment elle fonctionne ?
Oui, alors la solution ATA, donc c'est une solution de qui fait partie donc de la suite EMS, Enterprise Mobility Security. C'est une solution qui va donc se baser sur le trafic des DC, des domaines contrôleurs en local, on-premise du système d'information. Et en se basant sur le trafic avec du machine learning, la solution est capable de faire du machine learning afin de remonter des alertes au niveau donc de la console ou via par mail pour pouvoir donc en fait faire du proactif au niveau donc de la sécurité réseau.
Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers sur notamment les contrôleurs de domaine ou les réseaux ?
Bien sûr, alors en termes de prérequis, comme je l'ai dit, comme ça se base sur le trafic des DC, il faudra obligatoirement donc en fait déployer du port mirroring si on utilise une certaine architecture, donc si on utilise en fait donc une gateway classique au niveau de data center, il faudra déployer du port mirroring pour pouvoir en fait parser le trafic du DC et l'envoyer donc à la gateway. Et puis la gateway se chargera de l'envoyer à la data center.
Donc tu parles déjà de deux composants de ATA qui sont le ATA Center et le ATA Gateway.
Oui, c'est ça. En fait, donc l'ATA se compose en gros de deux composants principaux, donc qui est l'ATA Center, qui est le cerveau de la solution, donc c'est lui qui va notifier, qui va stocker toutes les alertes, etc. Et vous avez la Gateway, donc c'est elle qui va se charger de prendre le trafic de différentes sources, soit depuis les DC, soit depuis l'event log par exemple, donc des événements de sécurité, etc. Et donc ça va l'envoyer à l'ATA Center. Et il faut savoir que donc, dans l'ATA Gateway, il est possible d'avoir deux configurations, soit un serveur classique donc, qui fait office de ATA Gateway, donc là vous êtes obligé de faire du peer mirroring pour choper le trafic du DC, ou soit alors vous installez directement la gateway au niveau du DC, et c'est ce qu'on appelle une lightweight gateway.
Donc une passerelle légère.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Ok. Est-ce qu'il y a donc différents types d'architecture, je suppose, pour la solution ATA ?
Oui, bien sûr. Donc alors, en termes d'architecture, hein, donc il est possible de merger les deux, c'est-à-dire si par exemple tu as une infrastructure avec énormément de DC, il est possible donc de faire un mix entre des gateways classiques et des lightweight gateways, ce qui te permet en fait donc d'avoir une infrastructure un peu plus qui sera pas trop surchargée, parce que ça sur les RODC etc, tu as pas beaucoup de trafic, donc forcément tu vas optimiser donc en fait la data center. Et sur les sites où tu as des DC qui ont énormément de trafic, tu pourras déployer des gateways classiques. Donc vraiment, en fait, Microsoft laisse le choix de soit utiliser que des gateways classiques, soit des light gateways, ou soit de merger les deux, ce qui te permet d'avoir quand même une infrastructure optimisée.
En termes de déploiement maintenant, toi qui as eu l'expérience pratique, est-ce que tu as des conseils particuliers
Ah oui, alors en termes de déploiement, effectivement, au niveau conseil déjà, il faut savoir que si donc le serveur gateway, donc s'il est sur une machine virtuelle, il faut absolument qu'il soit toujours sur le hot en question, parce qu'en fait, quand tu vas configurer ton port mirroring, si la VM, en fait, tu fais un live migration et qu'elle bouge sur un autre DC et que donc le port mirroring n'est plus d'actualité, donc forcément ça ne va plus marcher. Donc en général, ce que j'avais fait, c'est que il faut faire des règles DRS pour pouvoir, sur VMware je parle, faire des règles DRS pour pouvoir en fait garder la machine virtuelle à un instant T sur le DC en question, sur le lot en question, pardon, pour pouvoir justement ne pas perdre la configuration réseau, par exemple, typiquement. Un autre conseil, c'est de déployer les lightweight gateway vraiment en cas de nécessité, c'est-à-dire si vous avez un site distant ou qui n'a pas beaucoup de trafic, ou alors un RODC par exemple, sur des sites qui n'ont pas beaucoup d'utilisateurs, etc., il est préférable d'utiliser des lightweight gateway. Par contre, en termes de si vous avez des infrastructures DC qui ont énormément de trafic de sollicitation, là vaut mieux quand même partir sur des gateways classiques.
Alors je pose un petit peu des questions de Béotien, parce que je n'ai jamais mis en œuvre le produit, notre propre produit ATR. Il y a des ABAC ou des conseils sur le calcul de trafic, parce que j'imagine que les trafics doivent être assez importants. Si on ramène tout le trafic réseau, plus tous les logs, etc., qui sont quand même un volume conséquent de sondes qui sont proches de tous les DC vers un seul serveur central, à moins qu'on puisse mettre plusieurs serveurs centraux. Les data centers.
Malheureusement, pour l'instant, c'est vrai que j'ai cette question, je la pose souvent à Microsoft, parce que je fais partie du programme Private Preview, donc je leur dis, ça serait bien quand même d'avoir deux data centers afin, si tu veux, d'absorber quand même le trafic qui arrive. Alors en termes de trafic, pour faire ton design, parce que ça, pareil, c'est un conseil. D'ailleurs, j'aurais dû en parler en premier. Pour faire le design de la solution, en fait, Microsoft te permet d'avoir un outil. On vous passera le lien. Donc, qui permet en gros de répertorier tout le trafic qu'il y a au niveau donc de ton infra. Et en fonction de ce trafic-là, tu vas avoir un tableau et qui va te dire en fait, par exemple, ton serveur data center, il doit avoir telle quantité de RAM, telle quantité de CPU, telle quantité de storage, etc. Vraiment, en fait, ça va optimiser ta mise en place en termes de requirement à hardware pour pouvoir déployer ta solution donc dans les bonnes conditions.
D'accord.
Pour info, l'outil s'appelle le ATA Sizing Tool. Et donc, il est disponible. On donnera le lien, mais il est disponible sur le site de Microsoft. Donc, ils ont bien inclus du capacity planning pour les deux versions, la partie lightweight et puis la partie gateway classique. Et c'est plutôt bien fait. Et puis, le calculateur est à jour.
C'est très bien fait, parce que je l'ai utilisé justement dans une infra quand même qui est assez, assez conséquente. Et ça donne effectivement des bons résultats. Et en tout cas, moi, je me suis appuyé sur ça pour faire le design. Et effectivement, pour l'instant, ça tient bien la route.
Très bonne transition. Ton expérience pratique donc chez un client en grand compte récente, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu constater des choses intéressantes?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai pu constater plusieurs choses déjà en termes de déploiement de l'outil. C'est quelque chose de vachement intuitif. C'est un outil quand même qui est simple, qui est pas vraiment compliqué en termes d'installation, etc. En termes de prérequis, effectivement, il y a beaucoup de prérequis au niveau des ports firewall, mais là, je vous invite à aller sur le site de la documentation et vous allez voir en fait tous les prérequis sont notés, donc c'est pas vraiment des choses extraordinaires. Ce qui est intéressant, par contre, retour vraiment pragmatique, c'est les alertes que j'ai pu avoir, en fait, qu'on a pu remonter, notamment sur des attaques de type, par exemple, DNS reconnaissance ou des brute force, des choses comme ça. Vraiment, l'outil, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que l'outil, là, il est installé dans un environnement quand même qui est assez, qui est assez, on va dire, qui est assez complexe, parce qu'il y a de la DFS, vous avez du DirectXS de l'autre côté, vous avez énormément, en fait, de choses qui se passent au niveau du système d'information. Et ATA, lui, donc, il est vraiment là pour pouvoir, donc, en fait, faciliter le tout et surtout vous donner toutes les alertes qu'il faut en fonction de votre réseau, quoi.
Donc, il va détecter des anomalies, en fait, dans le trafic.
C'est ça. Dans le trafic, et il est capable également, par exemple, si tu peux, depuis ton DC, tu as envie de faire remonter un log de sécurité en particulier, tu peux faire du forward log et lui envoyer, et donc le jour où tu auras donc ce log-là, il sera remonté dans la console, et tu seras également averti par mail aussitôt.
D'accord, donc à ce moment-là, on aura tous les événements de logon, par exemple Kerberos, de tous nos utilisateurs. Et pouvoir détecter potentiellement des anomalies. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que je ne maîtrise pas complètement. Donc des anomalies du type, telle personne se log normalement tous les matins à 9h sur un DC, et puis tout d'un coup, pouf, il se met à se loguer sur plein de DC à l'étranger ou...
C'est ça, par exemple. Il fait vraiment de l'analyse comportementale.
D'accord.
Effectivement, par exemple, il est capable aussi de te dire, attention, j'ai un utilisateur qui ne s'est jamais connecté sur ce DC, qui est quand même un serveur important au sein d'une organisation. Il va te dire, attention, quel compte, il va te montrer toute l'historique de la connexion, et toi, du coup, tu vas pouvoir quand même analyser la situation. Et tu vas pouvoir donc être vraiment, si tu veux, tu vas être vraiment proactif par rapport à ça, quoi.
Ah oui, on peut remonter à la source de l'anomalie.
C'est ça. En fait, en gros, quand tu vas recevoir une alerte, tu vas avoir un fichier Excel qui est vachement sympa. Et dans ce fichier Excel, tu vas avoir énormément de choses, d'informations pour être vraiment granulaire en termes de troubleshooting derrière. Tu vas avoir donc la source, la destination, tu vas avoir les ports qui sont utilisés, l'adresse IP, le site, si l'utilisateur il se trouve sur un site AD par exemple, il va également te récupérer les sites, et il est capable aussi de te faire remonter les groupes membership de l'utilisateur en question, ses comptes, son ACID, etc., pour que tu puisses vraiment, en fait, faire ton travail, si tu veux, de suivi au niveau de la sécurité.
Alors effectivement, ouais, quand on reçoit des alertes, on a ce fichier Excel. Mais je pense que le plus sympa dans le produit, en fait, c'est dans l'ATA Center, c'est le dashboard super épuré et super simple à lire pour des personnes qui sont non techniques, hein, parce que ça peut arriver de donner accès, par exemple, à ton RSSI qui n'a pas forcément toutes les billes techniques pour décrypter des fichiers, des logs ou ce genre de choses. Et l'avantage aussi d'ATA, c'est qu'on a vraiment un affichage épuré, simple, et on a de manière graphique toute l'arborescence et le cheminement de l'utilisateur, quel process il a utilisé, est-ce qu'il a fait une élévation de privilèges sur la machine, qu'est-ce qu'il a fait comme action, à quelle heure, et est-ce que c'est considéré comme un faux positif, hein, parce que ça peut être aussi des administrateurs qui font des tâches d'administration classiques.
C'est ça, tout à fait.
Et donc, on peut après catégoriser l'action en tant que faux positif. C'est typiquement le cas quand vous montez un serveur Azure AD Connect. Dans ATA, vous avez une alerte qui vous dit « Attention, vous avez un serveur qui tourne avec un compte de service et qui prend tout ce qu'il y a dans votre AD pour l'exporter vers le cloud. » Et donc, en gros, il vous dit est-ce que c'est un serveur légitime ? Est-ce que c'est un serveur de synchronisation ? Et après, si jamais on met oui en tant qu'administrateur, on sera tranquille et on ne sera plus alerté par ce genre d'alerte. Et ça, c'est hyper facile d'administration, en fait, même pour des personnes qui ne connaissent pas, on va dire, beaucoup la technique. On est capable d'aller regarder de manière régulière ce qui se passe dans l'environnement on-prem, quoi.
Chez ton client, Cephala, il y avait quel volume de contrôleurs de domaine ?
Alors, à peu près une soixantaine de DC à peu près dans la console. J'en suis à 62, je crois, de mémoire, à peu près. Et donc, du coup, ce qui fait que ça fait une base de données qui fait à peu près 400 gigas. Comme j'en parlais en off, avant la 1.5, la base de données faisait plus d'un tera. Et en fait, donc avec la nouvelle version, depuis la 1.6 jusqu'à la 1.7, ils ont vachement, en fait, amélioré donc la rétention de données au niveau de la database. Ce qui permet, en fait, vraiment de gagner, en fait, en termes d'espace au niveau de la base de données.
D'accord, de 1 tera à 400 gigas, ouais, c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal, oui, effectivement.
Et c'est au bout de combien de temps de fonctionnement ?
Alors là, à peu près, donc là j'en ai, ça fait à peu près 9 mois, à peu près, entre 9 et 10 mois, on va dire.
D'accord.
D'utilisation au quotidien.
Ah, c'est raisonnable, ça reste, oui, raisonnable. Oui.
Ça reste raisonnable, effectivement.
Et le Atta Center, donc j'imagine que lui, c'est pas une petite machine.
Et non, non, justement, parce que lui, c'est lui, comme tu l'as compris, c'est lui qui va absorber tout le trafic en fait qui va arriver. Donc c'est lui qui va traiter les données, etc. Donc forcément, il va lui falloir une puissance de calcul et surtout en fait de la RAM, etc. Actuellement, moi j'ai pour cette infra, en tout cas, j'ai une machine virtuelle, comme je l'ai dit, en fait, de 128 Go de RAM. Et je suis à 16 vCPU, mais par contre, je pense que je vais dans les prochaines semaines passer sur du serveur physique parce que au niveau réseau, en fait, ça tient pas trop.
D'accord, c'est le trafic réseau qui, le volume de trafic réseau qui bloque.
C'est ça. Exactement, c'est vraiment le volume du trafic réseau qui te dit attention, parce que des fois, en fait, ce qui est bien avec Atta aussi. Ça on en a pas parlé mais là j'en parle, c'est tu as aussi en fait l'alerte au niveau de l'infrastructure ATA, c'est-à-dire il va te dire attention, ton DC où il y a la Lightweight Gateway qui est installée, il fatigue un peu, donc il a de la mémoire insuffisante, etc. Donc c'est des choses qu'il est également capable de te remonter. Et surtout quand tu as beaucoup de trafic sur une carte réseau, il va te dire certains trafic a été droppé parce que je peux plus en fait le supporter. Donc, ils préfèrent dropper quelques trafics plutôt que d'arrêter le service réseau. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça qui est capable de remonter également.
Je rebondis sur ton expérience, justement, ce que Microsoft, en fait, a mis à dispo pour faire une sorte de lab et de test de l'outil de ATA. Donc, Microsoft a mis en place ce qu'ils ont appelé un ATA Playbook, un Attack Playbook. En gros, c'est un PDF qui vous décrit les différents d'attaques que peut détecter ATA. Alors en fait, il y a deux gros types d'attaques. Il y a les attaques entre guillemets de type signature, c'est-à-dire on reconnaît avec on sait que tel outil, typiquement Mimikatz, qui permet par exemple de dumper des mots de passe dans la mémoire du système, on a une signature qui permet de détecter cet outil de manière sûre. On peut aussi détecter des listings d'utilisateurs du domaine, parce qu'il faut savoir qu'un utilisateur du domaine, par défaut, il a le droit de lecture sur tout le directory. Donc il est capable, depuis son poste, sans que ce soit illégitime, il est capable de lister tous les utilisateurs du domaine avec une simple commande dans un terminal. Il est capable aussi de lister tous les membres de groupe. Donc ça, c'est des signatures, en fait, c'est des détections qui sont assez classiques, entre guillemets, que l'outil est capable de détecter, en plus de l'analyse comportementale dont tu parlais tout à l'heure. Et donc ce qui est sympa dans ce playbook, c'est que on a une petite histoire en fait qui est racontée par les personnes qui l'ont écrite, et ça montre comment petit à petit un attaqueur peut, avec un certain nombre d'outils et notamment avec Windows 7, parce que Windows 7 est beaucoup moins sécurisé que Windows 10, on est capable de d'abord sur la machine de prendre des droits d'administrateur sur la machine, et puis ensuite de détecter où l'utilisateur s'est connecté ailleurs que sur cette machine, et de détecter des machines à privilège potentiellement où des administrateurs du domaine typiquement se sont connectés, et après petit à petit comme ça on va remonter et on va acquérir des nouveaux privilèges administrateurs jusqu'à corrompre. En fait le but final de tout attaqueur, c'est d'avoir accès physique à la VM d'un contrôleur de domaine. À partir du moment où on a un accès à un DC, c'est fini. On peut récupérer la liste des utilisateurs, on peut tout faire, on peut récupérer
Le but, c'est d'être administrateur du domaine.
Administrateur du domaine, ouais. C'est ça. C'est ça. Il faut savoir que juste avec une commande netuser ou netgroup, on est capable de récupérer la liste des personnes qui sont enterprise admin ou domain admin sur le domaine actuel. Donc ça, c'est by design. Et on a pas mal d'outils de pen testing qui sont assez simples d'accès sur Internet et qui nous permettent de faire des choses de manière très rapide, même sans avoir des privilèges administrateurs sur notre machine. Donc voilà, je vous conseille d'aller lire cet ATA Playbook. Il est super bien expliqué. Vous avez du pas à pas pour faire un petit peu votre lab d'attaque avec un PC Windows 7, bien sûr, un Microsoft ATA, parce que le but, c'est aussi de regarder derrière qu'est-ce que Microsoft ATA vous affiche en termes d'alerte. Le but, c'est quand même d'être alerté. Si on n'est pas alerté,
c'est ça.
C'est exactement. Donc voilà, à chaque type d'attaque qui vous est présenté dans le playbook, vous avez l'alerte dans ATA et qui vous montre que à chaque étape de ces privilèges-là, de ce cumul de privilèges, le produit peut vous aider à bloquer ce type d'attaque-là. Voilà, donc allez-y, c'est vraiment sympa. Il commence ne serait-ce que par un Word qui contient une macro qui est envoyée par mail à l'utilisateur et qui va mettre un petit process sur la machine qui s'exécute tout le temps et qui va permettre justement d'aller mettre des documents, aller mettre des process sur le poste de la machine. Et c'est comme ça en fait que l'attaqueur rentre en général sur la machine d'un utilisateur. C'est par un mail malicieux ou par un malware que l'utilisateur aurait lancé par mégarde sur sa machine.
Et donc l'idée hein, c'est de détecter ce qu'on appelle des APT, hein, des Advanced Persistent Threat, type d'attaque très redouté par tous nos clients en grand compte.
C'est ça, tout à fait. Ouais.
Sur lequel on a pas mal aidé pas mal de clients à remonter leur Active Directory, parce que malheureusement, quand une telle attaque a lieu, c'est très compliqué de repartir avec l'Active Directory existence, et donc dans la plupart des cas, il faut tout reconstruire.
Et donc c'est très douloureux. En général, c'est très douloureux de se remettre sur pied en plus de voilà. Ces types d'attaques.
Donc ce genre d'outil qui permet de détecter les attaques très tôt et de remonter à la source pour aller essayer d'y remédier sont précieux.
Voilà, alors pour la petite histoire, il faut savoir que Microsoft ATA, à la base, c'est une acquisition hein, qui a été faite en 2014 par Microsoft d'une start-up qui s'appelle, de mémoire, Aorato, je crois.
Ah, oui. Et, oui, c'est ça, israélienne.
Voilà, c'est ça. Qui, en fait, c'est un peu la Silicon Valley de la sécurité en Israël. Et Microsoft a acquis pas mal d'entreprises là-bas, dont celle-là, Aorato. Ils ont aussi acquis Adalom, qui maintenant a été transformé en Cloud App Security, dont on parlera peut-être dans un autre podcast. Donc voilà, c'est un petit peu la philosophie de Microsoft. C'est pas de réinventer la roue, mais c'est plutôt de s'entourer des bonnes personnes et des produits qui existent déjà, et de les intégrer dans l'écosystème Microsoft en intégrant le machine learning dont Microsoft est un acteur essentiel en ce moment, ce qui permet justement d'avoir cette base d'analyse comportementale qui est super intéressante et toute la puissance d'Azure derrière pour faire du traitement d'informations qui sans toute cette puissance-là serait perdue au travers des milliers de lignes de log que personne lirait en fait.
Donc Cephala, maintenant que tu as terminé ce projet-là, c'est en place, ça fonctionne, ou c'est quelque chose qui est encore en cours en fait?
Ah non, c'est quelque chose qui fonctionne, donc qui est pérenne. Et puis de temps en temps, je jette un coup d'œil parce que je suis plus sur la partie architecture, mais de temps en temps, je jette également un coup d'œil pour voir un peu l'état de l'infrastructure, etc. Et puis j'attends la nouvelle version pour pouvoir l'upgrader justement.
Elle apportera quoi du coup cette nouvelle version?
Il y a des choses qui sont encore sous NDA, parce qu'ils n'ont pas été annoncés. Par contre, tu as la notion, en fait, justement, tu parlais, Pascal, tout à l'heure, le fait que tu me disais, c'est que dans le on-prem pour l'instant, on va avoir en fait une extension vers des DC qui sont dans Azure. Donc, ce qui permettra également de notifier tout ce qui se passe dans Azure également au niveau des DC qui sont au niveau d'Azure. Après, tu as d'autres nouveautés que je ne peux pas trop détailler aujourd'hui parce que je suis un peu sous NDA sur cette partie-là. On verra bientôt les surprises.
Ok, bon, super. D'autres points à voir sur ATA ou...
Non, c'est bon pour moi.
On a fait le tour. Bon, super, merci Cephala.
Donc, allez-y, testez-le. Pour nos auditeurs qui connaissent pas ATA, il faut savoir qu'il fait partie de la suite EMS, dont on s'est fait apparaître tout à l'heure, Enterprise Mobility plus Security. Alors, très rapidement, il y a trois niveaux de licence hein, dans cette suite-là, la E3 et la E5. Et l'avantage, c'est que Microsoft ATA fait partie du plus bas niveau, qui est la E3. Donc voilà, même si vous faites une version d'évaluation de la suite EMS, vous avez la possibilité derrière de récupérer les sources d'ATA et puis de faire un petit POC hein, pour voir ce que ça donne chez vous. Et puis, je vous conseille de le faire. Vous verrez que vous allez découvrir quand même pas mal de choses assez alarmantes ou bizarres qui se passent sur votre infra on-prem, je pense.
Et si on veut tester les tests qui sont dans le ATA Playbook,
Alors, je vous donnerai le lien, hein, parce que le lien est imprononçable. Ouais. Je vous donnerai le lien. Voilà, bon, il fait partie des documentations officielles qui sont fournies par Microsoft. Voilà, c'est le Microsoft ATA Playbook.
C'est dans la galerie TechNet. Mais si on veut tester tout ça, il faut donc installer ATA.
C'est ça, ouais.
Sur un réseau.
Voilà, mais en version Lightway, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon environnement de test. Mm-hmm. J'ai mis la Lightway Gateway sur mon DC. Bon, j'ai quand même dû pas mal l'augmenter. Hein, parce qu'au départ, j'étais à 2 gigas de RAM sur mon DC. C'était pas assez, le service s'arrêtait toutes les 2 minutes. Donc, du coup, je l'ai passé à 5 gigas. Et depuis, j'ai pas de soucis. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que l'ATA Center peut déclencher la mise à jour auto de ces gateways-là. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire une passe sur tous nos DC pour être sûr que la gateway se mette à jour à chaque fois, à chaque montée de version. Ça aussi, c'est pratique.
Ouais. Parce que sur la 1.5, justement, ça n'y était pas. Et tu étais obligé, si tu avais 60 passerelles, t'imagines, tu étais obligé de le faire à la main, parce qu'il n'y a pas moyen d'automatiser ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas encore de module PowerShell pour cette partie-là aussi. Donc, du coup, pour faire des tâches d'automatisation, pour l'instant, on peut pas. Donc, il faudra peut-être attendre dans les prochaines versions, si Microsoft veut bien nous fournir quelque chose comme un petit module PowerShell ou quelque chose comme ça.
Ils attendent que tu le fasses.
Ouais, peut-être aussi.
Ok, eh bien, voilà pour ATA, c'est super intéressant, et on en reparlera, ou on parlera d'autres produits, hein, comme tu disais, Maxime, sécurité, je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde.
Ouais, tout à fait, en ce moment, il n'y a pas longtemps, tiens d'ailleurs, pas plus tard que mardi 14 mars, chez Microsoft, il y avait le Microsoft Cyber Security Summit.
Tout à fait.
Alors, personnellement, j'ai pas pu m'y rendre pour des contraintes professionnelles. Mais j'ai eu de très très bons retours de la part de cet événement-là. Donc le but, c'était un petit peu de montrer... Alors le matin, c'était plutôt pour les décideurs avec une keynote de Bernard Gagnon et de partenaires et de clients. Et l'après-midi, c'était plus orienté technique avec les équipes produits qui venaient de Corp et qui faisaient pas mal de démos, d'explications sur ces produits-là. Donc je pense qu'ils ont dû parler de Microsoft ATA, de Cloud App Security et de pas mal de produits qu'on trouve dans la suite EMS justement. Donc voilà, je sais pas s'ils vont mettre du contenu suite à cet événement, du contenu en ligne.
Je crois.
Mais
je crois.
Voilà, on vous tiendra au courant si jamais il y a du contenu qui sort sous peu.
Tu sais, tu me fournis une transition parfaite. Puisque j'ai pas pu assister à cette journée sécurité le 14, c'était mardi ou mercredi, ouais. Je sais plus.
Mardi 14.
Parce que j'étais en train de faire une présentation l'après-midi dans un petit événement avec notre partenaire F5. Une présentation dans laquelle je faisais une démo de ce dont je veux vous parler tout de suite. Qui s'appelle Azure.
Alors c'est quoi?
Azure CLI 2.0. Azure Command
Alors,
Line.
CLI, ça veut dire quoi ça?
Command Line Interface. Donc c'est l'interface en ligne de commande d'Azure version 2.
D'accord.
Donc vous faites de l'Azure, hein, Céphala et Maxime.
Ouais, un petit peu. Voilà.
Voilà.
YAS en ce moment, faudrait que je me remette au YAS. Bon, passe pas trop non plus, c'est pas trop mon truc. Mais c'est toujours passionné hein, de tout ce qui se passe dans le cloud. Puis ça avance à une vitesse folle.
Ça va trop vite.
Voilà.
C'est très dur de suivre.
Donc jusqu'à il y a peu, il y avait deux façons de faire de l'Azure en ligne de commande. Il y avait PowerShell, donc le module Azure PowerShell, qui maintenant
On présente plus, je pense. Hein.
Voilà, il a beaucoup évolué depuis le début. Hein, et il est maintenant séparé en plusieurs modules. Le mode ARM est complètement supporté en parallèle du mode ASM de l'ancien mode, de façon beaucoup plus rationnelle qu'avant. Enfin, je passe sur le côté PowerShell, on connaît, on maîtrise, et ça fonctionne très bien. Maintenant, il y avait une deuxième ligne de commande qu'on appelait la Azure Xplat CLI, c'est-à-dire Cross-Platform CLI, Command Line Interface, donc l'interface en ligne de commande cross-platform. Qui fonctionne sur Mac, sur Linux, sur Windows, et qui était écrite en Node.js, très connue de tous les développeurs web. Donc voilà, ça, c'est un truc qui marche très bien. Alors par contre, pour l'utiliser, il faut installer Node.js sur le poste parce qu'il n'y a jamais Node.js de base que ce soit un Linux ou un Mac.
Ouais.
Encore moins un Windows. Enfin, vous l'avez testé, je suppose, tous les deux. Vous l'avez utilisé.
J'ai regardé vite fait, mais j'ai pas utilisé en prod, en tout cas.
D'accord.
J'ai fait quelques tests, mais je me suis arrêté là.
Ouais, pareil pour moi. Pas vraiment testé à fond.
Ok.
Je sais par contre que tu peux mettre Azure CLI sur un conteneur Docker aussi. Je sais pas si t'as testé.
Tout à fait. C'est une façon de
c'est
le.
C'est possible.
C'est une façon dont Microsoft le fournit. Donc soit on l'installe sur la machine que l'on veut, soit on récupère le conteneur Docker fourni par Microsoft. Donc on n'a rien à faire, quoi. On a une commande Docker à faire, Docker run -it, et puis le nom du conteneur qui est donc, que j'ai oublié de tête, je le connais pas par cœur. C'est quelque chose genre Microsoft / Azure CLI, un truc comme ça. Et voilà, ça marche tout seul, quoi. Et ça, c'est la beauté du modèle des conteneurs aussi.
Complètement, oui.
Et donc, c'est un petit, tout petit conteneur Linux sur lequel il est installé. Donc, c'est très pratique. Cela dit, on a eu, évidemment, suite à l'utilisation pendant un certain temps de cet outil, on a eu des remontées d'utilisateurs, des remarques, des commentaires, etc. Et notamment, la plupart des commentaires tournaient autour du fait que ben, c'est bien, c'est un bel effort, mais on pourrait mieux faire en termes d'intégration ou de suivi des usages, de respect des usages en vigueur chez les développeurs Linux, Mac, etc. Donc, dans le monde d'un script, d'une interface de ligne de commande de type Bash, il y a des usages, notamment pour le scripting, pour le fait de pouvoir faire des pipes, des redirections, du traitement automatique dans des batchs, etc., à partir des sorties des outils, hein, piper, filtrer, traiter les résultats des lignes de commande. Et ces usages n'étaient pas forcément très suivis dans l'outil Azure CLI, Azure Xplat CLI. Et donc, on a pris en compte toutes ces demandes-là et on a refait une nouvelle ligne de commande qui est plus performante, qui est plus conforme aux usages en vigueur dans tout ce qui est scripting, bash, etc. Donc, une meilleure intégration. Et plus simple également à installer, puisqu'on nous a dit aussi que Node.js, c'est pas mal, mais en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que c'est pas immédiat à installer. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, quoi. Et c'est moins performant que d'autres technos. Et donc on a changé de techno, on a pris Python, parce qu'on sait que Python, bah, c'est déjà sur tous les Linux et sur Mac. Et c'est beaucoup plus simple à installer quand on a un outil qui est écrit en Python. Et c'est beaucoup plus performant également.
Alors c'est peut-être une question idiote, hein, je ne sais pas, mais quelle est la philosophie d'Azure CLI ? Alors je comprends bien que le but c'est quand même d'être cross-platform pour administrer Azure.
Exactement.
Je me trompe pas. Alors, mais maintenant, enfin, en parallèle, on voit que Microsoft est en train de démocratiser PowerShell sur Linux et aussi sur macOS. Alors, quel est l'intérêt de faire Azure CLI alors qu'en parallèle, on commence à avoir PowerShell qui arrive pour ces mêmes systèmes ? Alors, quel est l'avantage ?
C'est une très bonne question. C'est une question de choix, d'avoir le plus de choix possible. On a des gens qui viennent du monde Microsoft pur. Et donc ils vont être contents de retrouver sur Linux le jour où il y aura où ils seront peut-être obligés de par ce qui va se passer dans leur entreprise en termes d'applicatifs et tout ça, mais ils vont retrouver sur les machines Linux leur techno habituelle, à savoir PowerShell. Et puis réciproquement, des administrateurs qui viennent plutôt du monde Linux, ben ils vont être contents d'avoir des outils conformes à leurs habitudes Linux pour manipuler le cloud Azure. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est que de plus en plus c'est que tout le monde puisse utiliser Azure, quelles que soient ses origines, que ce soit des origines purement Microsoft ou des origines purement Linux, Mac, etc. Donc, okay. Intégrer. Et puis en plus de ça, quand on va chercher à intégrer Azure à l'intérieur de process de type DevOps, où on parle beaucoup d'automatisation, déploiement continu, continuous delivery, continuous deployment, tout ça, où on va devoir créer des infrastructures à la volée, faire de l'infrastructure as code, générer des infras dans Azure à la volée, il va falloir automatiser tout ça. Et en général, quand on va venir, quand on va chercher à intégrer ces actions de manip d'infrastructure dans Azure à l'intérieur de scripts existants. Les scripts existants, la plupart du temps, ils sont écrits en bash, quoi. Ça va être des scripts exécutés par des systèmes comme Jenkins ou autres. Tu vois, il n'y a pas que du PowerShell, quoi.
C'est sûr. Ok. Donc c'est deux philosophies différentes, en fait, hein, si on résume.
Voilà. On a une API REST à la base, hein, et cette API REST, on la manipule soit depuis le PowerShell, soit depuis la ligne de commande multiplateforme.
Ok. Alors je suppose que ça ne marche pas avec ASM, hein, cette Azure CLI.
Non, la nouvelle là ne marche qu'en mode ARM, effectivement.
Et là, il y avait une version 1, je suppose, c'était pareil ?
La version 1, c'était c'était celle qui était écrite en Node.js, et elle avait encore les deux modes, ARM et ASM.
D'accord, ok. Donc si on veut faire encore de l'ASM, il faut utiliser la version 1. Si elle est encore supportée ou si elle existe encore, je ne sais pas.
Tout à fait, elle existe encore. Elle est encore supportée.
Ok.
Alors au niveau support, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Je ne suis ni un spécialiste des licences, ni un spécialiste du support.
Ça évolue tellement vite, de toute façon, que ce qui est supporté aujourd'hui peut ne plus l'être demain.
D'autant que c'est des choses qui sont gratuites, qui sont fournies en open source. C'est dans GitHub. On peut très bien forker le truc et puis... faire son propre Azure CLI si on en a envie, hein. C'est pas du tout interdit. Donc l'avantage, c'est qu'on a une installation plus simple. Si on va sur le GitHub de Azure CLI, on a une ligne de commande à prendre, à exécuter pour l'installer.
Ok. C'est aussi dispo sous Windows, si je me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Ouais.
Ok. C'est top. Moment, on couvre vraiment toutes les plateformes. Quoi.
Sur toutes les plateformes. Alors par contre, entre la V1 et la V2, la syntaxe change. Donc ce qu'on a fait en termes de script sur la V1, il faut les adapter. Il faut adapter les scripts pour la V2, c'est clair.
Ouais, c'est comme le module PowerShell Azure Active Directory. Entre la V1 et la V2, on n'a plus les mêmes commandes lettres.
Puis ça a été le cas aussi quand on a fait le grand changement au niveau du module Azure, PowerShell Azure.
Ouais. Complètement.
Pour le traitement de ARM.
ASM et ARM. Ouais.
C'est ça. Ah, oui. Beaucoup de changements même, ouais, donc forcément.
Eh oui, il y a eu une V2 à un moment, voilà quoi.
C'est ça.
Donc là, c'est un petit peu la même chose, mais on a quand même beaucoup à y gagner, notamment donc l'installation. J'ai dit c'est plus simple, c'est plus rapide. Il y a une architecture en mode composant qui permet de faire des mises à jour de façon très simple et composant par composant. Par exemple, aujourd'hui, alors si j'ouvre une console bash et qu'on tape juste AZ, donc AZ c'est le nom de la commande, hein. En fait on va avoir le logo Azure et puis la liste des composants qui sont présents dans notre installation. Par exemple, on a des composants, un composant pour ACS, Azure Cluster Service. D'autres pour des composants plus bas niveau comme VM pour les machines virtuelles, ce genre de choses là. Donc tu vois tous les composants d'Azure qu'on va pouvoir gérer avec la ligne de commande Azure CLI. Donc il y a ACS, AD, App Service, Batch, Cloud, Component, Configure, donc ça c'est pour configurer la ligne de commande, Container, Disk, Document DB, etc., etc.
Alors justement, en termes de service, si on compare à PowerShell, est-ce qu'on est au même niveau ? Est-ce qu'on est plus avancé sur PowerShell ? Ou est-ce qu'on a un tableau comparatif quelque part qui nous dit voilà ce qui est dispo, voilà ce qui n'est pas dispo ?
Bonne question, j'ai pas de tableau comparatif, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore autant de composants gérés dans Azure CLI par rapport à PowerShell. Okay. Par contre, on a tout ce qui nous permet aujourd'hui de faire des trucs élémentaires, par exemple faire des VM, des VM scale set, du stockage... Et puis un peu de passe aussi, comme je sais pas moi, SQL, App Service, ce genre de choses-là. Plus les choses qu'on utilise également assez fréquemment, comme les Key Vault, le réseau, Azure AD.
Ouais, j'ai trouvé une petite liste des trucs les plus populaires. Alors, ils ne sont pas tous, mais tu as même du Document DB, du SQL Database Server, du Web App, de l'ACS, tu l'as dit.
Ah oui, ça couvre pas mal, ça couvre pas mal de choses.
Il y a de l'IoT. Gérer le load balancer, du virtual network, du VM, bien sûr, du resource group. Bon, j'essaie de cliquer sur la documentation de référence, mais le lien est cassé. Ah. Tant pis.
Zut. Je mettrai le lien qui va bien. Alors, je mettrai le lien vers deux choses, vers le GitHub, où à partir duquel on a tout. Hein. Et puis, une vidéo de Channel 9 qui est une très bonne démo de Jason Shaver, qui est un programme manager des outils open source pour Azure chez Corp, et qui fait une très bonne démo dont je me suis inspiré pour ma démo cette semaine. Donc les avantages, je disais, donc l'installation, les composants. Oui, les composants, parce que pour les mettre à jour, en fait, c'est toujours la question. Comment on met à jour un outil qu'on a installé comme ça? Et là, c'est très simple. On fait AZ Component Update et ça va chercher les mises à jour.
Ouais, c'est hyper rapide.
Beaucoup plus simple.
Et puis ça exploite JSON, hein, toujours derrière, bien sûr.
Alors, pour ce qui est effectivement bonne transition pour le scripting. Donc l'avantage au niveau du scripting est l'intégration dans les usages, les méthodes un petit peu pour tout ce qui est automatisation, quoi. Donc de façon non interactive. Donc par défaut, en fait, le résultat de toutes nos commandes, ça va être du JSON. On peut le changer, hein, pour avoir quelque chose de plus interactif avec un format de type table, pour avoir un rendu sous forme de table avec des en-têtes de colonnes et puis les résultats en dessous. On peut le faire. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs moi pour avoir une sortie par défaut qui soit lisible par un humain, quoi.
Et sinon, c'est tirer tirer output.
Voilà,
table.
Tirer tirer output ou moins haut.
Merci la doc.
Ou moins haut pour faire plus court.
Ouais, aussi.
Et d'ailleurs ça c'est un usage, voilà, le type d'usage Linux respecté, c'est que on a toujours des options avec moins moins le nom long et puis ou moins une lettre pour faire quelque chose de plus court si on veut.
Ouais.
Donc le moins moins output, où on a le choix entre JSON, donc format JSON strict, JSON C pour avoir de la couleur, le JSON en couleur. Donc c'est assez pratique le JSON en couleur, on dirait pas comme ça, mais quand tu lis une sortie en JSON C en couleur, on voit, il y a des choses qui sautent aux yeux, ce sont les valeurs, les valeurs quoi, à l'intérieur du JSON. Donc ça permet de repérer très rapidement, visuellement, comme ça, les choses qui sont intéressantes.
Sans couleur, c'est difficile à intégrer, hein, surtout quand tu as énormément de lignes.
Ouais, par contre, c'est en script, dur, hein. Quand on veut traiter du JSON, bah, il faut le JSON pur, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et puis, un troisième format, donc il y a table, JSON, et puis JSON C, et puis TSV. Et TSV, c'est le format Tabulation Separated Value, donc des valeurs séparées par des tabs. Donc c'est comme des colonnes, mais séparées par une table entre chaque colonne et sans en-tête. Donc c'est quelque chose qui est très simple à traiter en script. Il suffit de piper dans cut, par exemple cut-f, puis un numéro du champ, pour récupérer la colonne qu'on veut pour nos données, quoi. Par exemple.
Ouais, puis on peut même l'importer dans Excel avec le délimiteur tabulation au final.
Ouh,
ça
doit marcher
aussi, non ?
Effectivement.
T'as pas testé ?
Ouais, ouais, tout à fait.
Ouais.
Mais dans un script, souvent, ce qu'on veut, c'est par exemple récupérer. On veut, par exemple, scénario de base dans un script automatique, je crée une machine virtuelle et je veux que le résultat, ce soit son adresse IP publique parce que j'ai quelque chose à faire avec son adresse IP publique. Par exemple, grâce à Ansible, me connecter en SSH sur cette machine, automatiquement, ouais. Avec une clé SSH, et paf, faire des opérations avec un autre script. Pour faire ça, j'ai besoin tout de suite de récupérer l'adresse IP de la VM. Et comme le résultat JSON ou TSV de la création de la VM contient l'adresse IP publique de la VM, je peux faire ça de façon très simple, à condition que le format soit utilisable, donc JSON ou TSV.
Ouais, ok.
Autre avantage donc, qu'on a mis en œuvre avec le JSON, c'est que le JSON c'est bien, mais c'est intéressant de pouvoir faire des requêtes sur le JSON. Par exemple, je récupère toutes les infos sur mes VM, donc ça me ramène un gros paquet de JSON qui ressemble très franchement à ce qu'on a dans un template ARM, pour ceux qui ont déjà manipulé les templates ARM. Et à l'intérieur de ça, je peux récupérer certaines données. Par exemple, je sais pas moi, le type d'OS, son adresse IP publique, n'importe quelle donnée.
L'espace disque, des choses comme ça, même au niveau hardware aussi.
Des caractéristiques du disque.
D'accord, ok.
Des choses comme
ouais,
ça.
C'est vachement puissant quand même. D'accord,
donc,
ok.
Pour aller requêter ce JSON, pour aller récupérer l'info qui va bien, il faut se promener à l'intérieur de structures qui ont des champs avec des noms, etc., etc., à l'intérieur du JSON. Et pour faire ça, il faut un langage de requête. Donc il y a des outils qui sont très connus comme JQ qui fait ça très bien. Par contre, il y a un autre langage de query de JSON qui s'appelle JamesPath. Donc, ça se prononce JamesPath et ça s'écrit J-M-E-S-P-A-T-H. Donc, J-M-E-S-P-A-T-H. Il y a un site qui s'appelle jamespass.org qui décrit le langage. Donc c'est un langage de requête JSON, et l'intérêt de ce langage, c'est que c'est celui qui est utilisé aujourd'hui par la ligne de commande AWS. Donc les gens qui connaissent bien les commandes AWS et le langage de query JSON pour requêter tous les résultats de AWS, quoi, peuvent réutiliser, peut-être pas les requêtes parce qu'on n'aura peut-être pas exactement le même schéma au niveau des sorties de JSON, mais au moins le langage JamesPass pour faire ces requêtes.
Et en fait, pour les admins, c'est hyper simple d'adapter leur truc, quoi.
Exactement. Pour du scripting automatisé dans des... J'imagine très bien dans des pipelines DevOps, ça n'a pas de prix, quoi. Et chaque commande Azure Cli V2 a une option moins query qui permet donc de définir dans la ligne de commande une requête JamesPass dans le JSON qui est fourni par la commande. D'accord, donc n'importe quelle commande sort un paquet de JSON. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une info là-dedans. On fait une requête JamesPass et paf, on a l'info sans formatage, sans rien, pour la réutiliser dans un script, quoi, dans un pipe par la suite. Donc ça, c'est pour le côté...
C'est vachement puissant. Quoi.
Voilà, pour le côté scripting, automatisation, c'est parfait. Maintenant, ça, c'est un aspect, mais il y a aussi un autre aspect quand même, qui est le côté interactif. Donc je suis sur ma ligne de commande dans mon bash, et puis j'utilise AZ pour faire des... Je sais pas moi, pour créer une machine virtuelle à la volée parce qu'on me le demande ou j'en ai besoin tout de suite, là. Et donc là, il y a pas mal d'améliorations également pour le côté interactif. Notamment, deux choses. Donc la première, c'est la complétion par la touche tab. Donc ça, si on connaît ça, hein, dans tous les shells modernes, que ce soit bash ou CMD ou PowerShell. Quand on veut taper le nom d'un fichier, on commence à le taper, on touche tab, on tape la touche tab, et hop, ça complète le nom qu'on est en train de taper avec le nom complet du fichier qui existe sur le disque.
Hein, on connaît, ouais, c'est la base.
Voilà,
c'est,
on connaît tous ça.
J'ai tout le temps, je pense.
si on ne tape pas de paramètres et qu'on tape deux fois tab, ça va nous lister l'ensemble des fichiers disponibles dans le répertoire. Voilà, ce genre de choses-là. Donc l'idée, c'est que c'est de reproduire son comportement-là dans la ligne de commande Azure, sur tout ce qu'on peut mettre dans une ligne de commande, à savoir les paramètres des commandes, mais aussi ça va faire des requêtes contextuelles. Je m'explique. Quand je vais créer une VM, pour créer une machine virtuelle, il me faut trois paramètres. Il me faut au minimum trois paramètres. L'image que je veux utiliser pour ma VM, une image Ubuntu, CentOS, Windows Server 2016, etc. Deuxième paramètre, le resource group dans lequel je veux créer la VM. Et puis troisième paramètre, le nom de la VM que je veux créer. Donc le premier, je vais faire moins image. Et puis là, j'oublie toujours. Donc imagine que je dois aller chercher le nom de l'image Ubuntu que j'ai oublié. Je devrais arrêter ma commande, en refaire une autre pour aller chercher, faire Azure, non, AZ, pardon, AZ, image, liste ou un truc comme ça pour aller récupérer mes noms d'image et puis le faire un copier-coller. Alors que là, en fait, je vais commencer ma commande, je vais faire AZ VM create, moins image, et là, je vais faire tab, et ça va me lister l'ensemble des modèles disponibles sous forme d'alias, donc des noms courts, des noms simples. Par exemple, Ubuntu, c'est Ubuntu LTS. Un autre, ça va être CentOS. Un autre, ça va être, Windows Server 2012 R2. Et comme ça, sans presque rien taper, juste en jouant avec la touche tab, je vais pouvoir mettre dans ma ligne de commande le nom de l'image que je veux.
Donc, ah oui, donc ça simplifie vachement au niveau du quotidien, en fait, déjà en termes de création, en termes de...
Exactement.
Modification, etc.
Quand on tape en direct, on veut aller vite et puis on n'a pas envie de tout arrêter parce que j'ai oublié le nom de l'image, quoi.
Ça t'évite de faire un list, quoi.
Exactement. Ensuite, je vais faire un -g pour mettre le groupe de ressources dans lequel je vais faire ma VM. Et là, pareil, il faut que je mette le nom d'un groupe qui doit exister dans mon abonnement. Et qu'est-ce que je fais? Je fais tab, et ça va me lister tous les groupes de mon abonnement. Donc là, ça va faire une requête en dynamique dans mon abonnement pour me ramener tous les groupes. Donc c'est une complétion de commandes intelligente en fonction du contexte. et puis ensuite je vais rajouter le nom de ma VM, et puis c'est tout, je peux faire Enter et ça va me faire ma machine virtuelle. Donc ce qui m'amène au dernier avantage sur lequel je veux insister, c'est des paramètres par défaut intelligents. Donc quand je crée par exemple une VM Linux, j'ai besoin vraiment que de ces trois paramètres-là, l'image, le resource group qui existe, et puis le nom de la VM. Tout le reste, il va le prendre par défaut. Par exemple, il va prendre mon nom d'utilisateur Linux courant, et il va l'utiliser comme nom de l'administrateur dans la VM. Il va prendre ma clé SSH publique qui est dans mon répertoire.ssh, donc dans mon profil local, et il va l'envoyer dans la VM. Et comme ça, une fois que la VM va être créée, eh ben, j'aurai un genre de single sign-on, puisque je n'aurai qu'à faire SSH le nom de la VM ou son adresse IP. Adresse IP, entre parenthèses, qui m'est retournée par la commande précédente de création, quoi. Et puis, je serai connecté. Parce qu'il aura pris mon nom Linux courant, quoi, et ma clé SSH que j'ai en local. D'accord.
Ouais, donc mon workflow de déploiement de VM, il est hyper simple, quoi.
Voilà, exactement. Pour faire un truc rapide, c'est très pratique. Donc des paramètres par défaut qui sont intelligents et vraiment très bien pensés, quoi, très pratique.
C'est ça, c'est plus à destination des devs qui ont besoin d'une petite VM rapidement pour faire des tests ou ce genre de choses, quoi.
Voilà, c'est ce qui est interactif, quoi. C'est le côté quotidien interactif. Je fais des trucs. J'ai une ligne de commande qui est un petit peu intelligente, quoi, qui pense aux vrais usages de la ligne de commande, quoi.
Non, c'est vraiment, et qui te fait gagner du temps, sympa. Pour le coup.
Voilà, exactement, qui fait gagner du temps.
Bah, et du coup, c'est en GA tout ça ou pas?
Tout à fait, c'est en GA depuis la semaine dernière, je crois.
C'est tout récent. Ouais.
Depuis...
En février, non, c'est pas ça?
Ouais, ou il y a deux semaines, ouais. Enfin, en tout cas, c'est tout récent.
Ok, parce qu'en fait, c'est la version 2, mais c'est la première qui est en GA, normalement. En fait, la version 2.0.0 a été publiée le 27 février.
Voilà.
Donc ouais, c'est la première version GA. Voilà, au moins c'est dispo pour la prod, donc allez-y, quoi.
Là, je vois qu'il y a ils sont en train de développer des modules pour Data Lake. Le module pour VM est en version 2.0.1. Donc ça, c'est la version la plus récente de Azure Cli 2.0.1. Il y a 3 jours. Donc oui, il y a encore des évolutions qui se font. Il suffit de faire AZ -- version aussi.
Donc en fait, on a eu un update de chaque module à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a par exemple le module VM qui a une telle version. Oui. Microsoft peut mettre à jour juste le module VM sans mettre à jour l'intégralité du reste. Quoi.
Et oui, c'est ça qui est
bon.
Mise
à jour module par module, en fait.
C'est ça qui est pratique, parce que quand tu fais AZ -- version, tu vois la version de Azure Cli, mais aussi la version de chacun des modules. Par exemple, je vois que mon VM est en 2.0.1. mais que mon SQL est encore en 0.1.1.B6.
C'est ça. Donc chaque module, en fait, a son propre cycle de vie, et ouais. Ce qui permet d'être vachement rapide sur les releases, je suppose. Et puis, oui. Peut-être des bêtas aussi de modules qui sont dispo.
Ouais, je suppose que, par exemple, je vois Data Lake, là, qui est en version 0.0.1B2.
D'accord, donc il y a quand même des modules bêta dans la version GA,
ouais.
Si je comprends bien.
Okay. Ouais. Celui-là n'est pas installé par défaut, mais on peut l'installer puisqu'il y a une commande az component list available pour lister ceux qui sont disponibles et qu'on n'a pas encore installé.
Alors je viens de découvrir aussi que Microsoft fait des nightly builds de CLI si vous souhaitez les tester. C'est sur GitHub, on vous mettra le lien aussi, je viens juste de le découvrir. Voilà, ça peut être sympa pour être bêta testeur et tester en avant-première ces trucs.
Donc,
super. Bah écoute, merci Pascal.
Donc merci à tous les deux, Maxime et Céphala. On se retrouve très bientôt à Aix dans 2 semaines. Hein. C'est dans 2 semaines, le AOS CMD.
Le 30 mars.
Ouais, dans le 30
c'est ça,
mars.
Tout à fait. Dans ma chère ville de Aix-en-Provence, donc que j'aurai le plaisir de vous accueillir pour un bel événement qui va durer toute la journée.
Avec un beau soleil aussi, j'espère.
J'espère. Maxime, ne ramène pas le mauvais temps, s'il te plaît. Parisien.
Non, t'inquiète.
Et donc, voilà. Maxime, on va essayer de faire comme au MS Cloud Summit de Paris, de faire un podcast spécial pour cet événement, un spécial X, avec interview de gens qui seront présents là-bas, hein, que ce soit des organisateurs, des speakers ou des participants.
Ouais, tout à fait. On va essayer de prendre la température un peu sur place. Et puis, je pense que ça va être sympa de pouvoir discuter avec tout le monde et d'interagir comme ça, de manière un peu spontanée. Parce que, voilà, on a des fois des feedbacks à chaud et c'est aussi sympa d'avoir ce genre de retour de temps en temps.
Ok, et ben à bientôt. Puis bon week-end à tous pour ce week-end. Au revoir.
À très bientôt. Merci.
Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.